VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 5h en temps universel. Bonjour, bienvenue. On commence par la Centrafrique. Des tirs, des menaces et des intimidations ont marqué le déroulement du référendum constitutionnel dimanche. Les violences ont fait 2 morts dans l'enclave musulmane de Bangui. Pour cette première étape d'un processus électoral censé sortir le pays de 3 ans de violents affrontements intercommunautaires, illustration du contexte particulièrement difficile dans lequel les votants ont accompli leur devoir. Écoutons cet habitant du PK5 à Bangui.
Au PK5, la situation, ce que vous voyez, c'est que la population a bien voulu voter. Mais il y a un groupe armé qui a tout fait pour empêcher la population de voter. Et ça fait très mal, nous, la population centrafricaine civile, c'est que la MINUSCA a cédé devant la pression de ces quelques personnes, ces bandits, à récupérer tout ce qui est urne ici, à l'école Koudoukou, pour ramener à la MINUSCA. Donc, il y a eu une délégation, plus des centrafricains chrétiens et musulmans du kilomètre 5, qui ont marché jusqu'à la MINUSCA pour exiger que les urnes soient ramenées et que les gens puissent voter, parce que c'est quand même notre devoir de pouvoir voter. On a le choix de voter oui ou de voter non, mais personne ne peut nous empêcher de voter.
Un votant du PK5, propos recueilli par Tatiana Mosso, envoyée spéciale VOA. Les États-Unis ont demandé dimanche à leurs ressortissants de quitter le Burundi en proie aux pires violences depuis un coup d'État manqué à main dans ce pays plongé dans une profonde crise politique. Dans un communiqué, le département d'État a ordonné au personnel américain non indispensable et à leurs familles de quitter le pays, recommandant également à tous les Américains de ne pas se rendre au Burundi et à ceux qui s'y trouvent de partir aussi rapidement que possible. L'ambassade ne peut offrir que des services d'urgence très limités à ses citoyens, averti le TS. Près de 90 personnes ont été tuées vendredi pendant et après des attaques coordonnées contre 3 camps militaires au Burundi, selon un bilan de l'armée faisant état du décès de 79 ennemis et de 8 soldats policiers. Les puissances mondiales et plusieurs organisations internationales ont réaffirmé leur soutien à un plan de l'ONU pour la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye, réuni hier à Rome, en Italie. Elles ont également appelé à un cessez-le-feu immédiat entre les factions libyennes rivales. Chérubin Dorsil.
Cette réunion, co-présidée par le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue italien Paolo Gentiloni, a rassemblé plusieurs responsables libyens et l'envoyé spécial de l'ONU Martin Kobler. L'heure est venue de sortir de l'impasse et aller de l'avant pour l'avenir de la Libye, a déclaré John Kerry dans une conférence de presse. Il a précisé que le communiqué conjoint exhorte toutes les parties à accepter une trêve générale et immédiate dès la signature de l'accord. Cette rencontre visait non seulement à ramener la stabilité et promouvoir le développement en Libye, mais aussi à contrer l'expansion du groupe État islamique. Un rapport d'un groupe d'observation de l'ONU, paru le mois dernier, signale la présence en Libye de 2 à 3 000 combattants djihadistes, dont la moitié se trouve dans la ville côtière de Sirte, contrôlée par Daesh. Selon un responsable au département d'État, un gouvernement unique à Tripoli permettrait de mieux faire face à la menace djihadiste. Les signataires ont mentionné que le groupe État islamique et d'autres groupes extrémistes et organisations criminelles sont engagés dans toutes les formes de contrebande et de trafic, en particulier d'êtres humains. Ils ont en outre rappelé leur engagement à fournir une assistance humanitaire à la Libye. Entre 2,5 millions et 6 millions de Libyens en ont besoin, disent les Nations Unies.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Et la mobilisation des électeurs inquiets a empêché l'extrême droite de conquérir la moindre région en France lors d'élections qui sont un signal d'alarme pour la classe politique française à 16 mois du scrutin présidentiel. Selon les résultats définitifs, la droite a remporté dimanche 7 régions, dont la capitale tenue depuis 17 ans par la gauche. La majorité présidentielle de François Hollande a limité les dégâts avec 5 régions sur 13 en métropole. L'île de Corse a été remportée par les nationalistes, une grande première en France. En Arabie Saoudite, au moins 14 femmes ont été élues aux premières élections ouvertes aux femmes dans ce royaume ultra-conservateur où elles restent soumises à de nombreuses restrictions selon des résultats communiqués dimanche. Ces candidates ont été élues samedi lors de municipales considérées comme historiques car l'Arabie Saoudite était le dernier pays au monde à dénier à ses citoyennes le droit de voter ou de se porter candidate à un scrutin. Puis Donald Trump aux États-Unis ici, le candidat à l'investiture républicaine inquiète jusque dans son propre parti après la proposition de fermer les frontières américaines aux musulmans. Jean-Roger Bion à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain journal dans 25 minutes, ce sera en compagnie de Nathalie Barge et Anne Alberson dans Le Monde Aujourd'hui. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.